Good Morning Business, le grand entretien.
Et à 8h20, notre invité, il est serein. Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair.
Bonjour.
Bonjour. À votre place, je ne serai pas complètement parce qu'il y a quand même une enquête approfondie de la Commission européenne qui regarde effectivement votre plan de soutien qui est en cours de révision avec potentiellement l'abandon de créances de la part de l'État et des aides fiscales. Vous êtes entré sur ce plateau et vous nous avez dit, alors et moi, que vous étiez serein. Pourquoi vous êtes serein ?
Alors, je suis serein parce que d'abord, bon, ça n'est pas une surprise, hein, c'est une étape qui est purement technique et procédurale. Donc, c'est une procédure classique. Vous savez que...
Un classique, mais dans l'ouverture en cas d'approfondie, les attendus de la Commission sont un peu sévères.
Alors, les attendus sont assez classiques aussi, parce que si vous lisez toutes les précédentes notifications pour des cas similaires, ce sont toujours les mêmes sujets qui sont soulevés là par la Commission. Notre réponse est prête. On est parfaitement aligné avec l'État français. On explique évidemment par tous les événements totalement imprévisibles le fait que le business plan de 2020 qui était bâti sur les hypothèses réalistes n'ait pas été tenu. La guerre en Ukraine, la hausse du fioul, les problèmes sociaux aux Antilles. On a fait tous les efforts de restructuration nécessaires, une diminution très forte de la masse salariale. On a modernisé la flotte. Et donc, si vous voulez, l'État français reconnaît, un, que la compagnie est totalement viable et qu'elle est saine, reconnaît les efforts de restructuration et toute la trajectoire de redressement. Donc, notre réponse est prête, vous vous en doutez. Donc, nous attendons que nous puissions justement adresser tous nos éléments de réponse à l'ensemble des interrogations qui sont soulevées par la Commission.
Alors, vous avez hâte, évidemment, de répondre directement à la Commission européenne.
Absolument.
Pendant ce temps-là, les autres peuvent répondre. La concurrence peut dire ce qu'elle pense de votre plan de restructuration et notamment sur la question de l'effacement de la dette de l'État. Vos concurrents trouvent que c'est de la concurrence déloyale. Là-dessus, vous répondez quoi ?
Alors d'abord, je réponds qu'en 2020, nous n'avons eu aucun abandon de dette. Nous avons bénéficié d'un prêt de l'État qui était l'équivalent d'un PGE dont tous nos concurrents ont bénéficié. Bon. Et là, effectivement, nous demandons un abandon de dette parce que, comme je le dis, la compagnie est totalement viable, mais effectivement, il y a un sujet qui est le remboursement de la dette du Covid. Et nous considérons que, compte tenu de tous les efforts de restructuration, le droit communautaire nous permet de solliciter ce type d'aide. Les aides fiscales dont on parle, ce sont des aides qui sont réservées à l'ensemble des transporteurs qui desservent des lignes ultramarines. Donc, ce n'est pas une spécificité là pour Corsair. Et certains de nos concurrents en ont très abondamment bénéficié.
Bon, alors la situation de Corsair aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est meilleure qu'il y a quelques mois.
Oui, elle est bien meilleure.
Votre chiffre d'affaires est progressé de 15% hein, sur le premier semestre qui s'est ouvert au 1er octobre.
Absolument. Après une progression de 38% l'année précédente, donc nous avons atteint un chiffre d'affaires record.
Hein. Ouais. Donc du coup, pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'on abandonne des créances ?
Parce que il y a le sujet du remboursement de la dette. Nous ne sommes pas la seule entreprise. Hein. Nous sommes arrivés dans le Covid avec zéro dette. Bon, là, effectivement, on demande simplement d'être soulagé en quelque sorte de cet effort. C'est pas spécifique à la compagnie Corsair.
Mais c'est quoi la suite, du coup ? Vous allez renégocier ce plan avec la Commission européenne, peut-être passer à un étalement ? Vous allez donner argument contre argument ? C'est quoi votre calendrier ?
Ah, écoutez, là, le calendrier, c'est que nous attendons la parution au Journal officiel de la notification, c'est pas une décision, hein, c'est juste une notification. À partir de là, nous aurons 30 jours, nos concurrents donc également, pour communiquer nos éléments de réponse, et ensuite, il y aura une partie de dialogue itératif avec la Commission. Voilà,
mais elle peut vous dire, le plan ne passe pas, il faut en refaire un.
Écoutez, là, je vous dire, là, nous sommes confiants, et l'État français donc également, hein, comme je vous l'ai dit, on est parfaitement aligné avec l'État français, qui trouve que la compagnie va redevenir la profitable cette année, elle a fait tous les efforts de restructuration, et que la déviation est due à des éléments exogènes. Bon, donc à partir de ce moment-là, ça nous donne une certaine sérénité, pour ne pas dire une sérénité certaine, donc là, par rapport aux résultats de cette enquête.
On va parler d'une forme de pivot aussi chez vous, le développement vers l'Afrique, ouais. Avec notamment l'entrée d'un nouvel actionnaire à la République du Congo, qui va détenir quand même 40% de votre capital. L'ouverture donc de la ligne africaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut compenser l'activité, notamment outre-mer, les Antilles, qui, vous l'avez rappelé, hein, parfois est compliqué avec des mouvements de grève.
Alors, je veux dire, là, pas tout à fait, parce que d'abord, aujourd'hui, l'Afrique ne représente que 20% de notre chiffre d'affaires, 80%, ce sont les lignes ultramarines, et que nous avons renforcé depuis la période pré-Covid, puisque, grâce à l'augmentation du nombre d'avions, on est en vol quotidien, voire deux vols par jour, sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, et sur Saint-Denis. Donc, ça, c'est le premier sujet. Mais j'ai toujours dit que je souhaitais développer un pilier africain. Mmh. Ça fait plusieurs années, vous savez, nous opérons la ligne Paris-Abidjan depuis une douzaine d'années. Aujourd'hui, on l'opère en vol quotidien. Donc, ce sont des lignes qui sont extrêmement rentables. Brazzaville bientôt, que nous préparons pour la fin de l'année 2024. Et je trouve que c'est très pertinent d'avoir trois piliers, dont un pilier africain qui représenterait à terme à peu près le tiers de l'activité du chiffre d'affaires de Corsair.
Dans quel état est votre flotte aujourd'hui ? C'est composé d'avions qui ont été rachetés, de nouveaux appareils ou pas ?
Absolument. Alors justement, là, on a progressé à marche forcée, hein, puisque nous avons reçu en mars 2024 notre sixième Airbus A330neo de dernière génération. Nous allons recevoir le septième au début du mois de mai, le huitième fin août et le neuvième en novembre. Et donc, à cette date, nous aurons 100% de la flotte qui sera composée d'avions de dernière génération. Alors qu'au niveau mondial, c'est même pas 25%. Nous aurons une flotte bien plus moderne que n'importe laquelle de nos concurrents. Donc, si vous voulez, en un peu plus de 3 ans, nous aurons parachevé la modernisation de la flotte que, je le souligne, nous aurons entièrement autofinancé. On n'avait besoin de personne.
Vous avez évidemment beaucoup, quasiment toute votre carrière hein, dans le transport aérien. Il se transforme
en tourisme un peu.
Et le tourisme, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Le transport aérien qui se transforme, on parlait des nouveaux avions, ouais. Décarbonation. Est-ce que ça va assez vite ? On a quand même l'impression, là on parle beaucoup ce matin de transition énergétique. Est-ce que ça va assez vite ? On a des avions qui consomment un peu moins, on a peut-être demain des carburants de synthèse, mais globalement on n'a pas encore des nouveaux moteurs, on n'a pas de nouvelles sources d'énergie pour les avions.
Alors, il existe une feuille de route pour la décarbonation de l'aérien. N'oublions pas que l'étape, c'est 2050, le zéro net émission. Ouais. Bon. Ensuite, on a identifié l'ensemble des leviers. En matière de modernisation, je trouve que les compagnies françaises font énormément d'efforts, toutes d'ailleurs. Elles font des efforts de modernisation, de renouvellement de leur flotte. Bon, ensuite, on est tributaire des constructeurs aéronautiques. C'est certain que les grandes innovations disruptives comme l'avion électrique ne pourra s'appliquer qu'aux petits avions de l'aviation générale, ouais. Les plus petits avions de l'aviation d'affaires. L'avion à hydrogène, c'est pour une perspective le plus lointaine. Donc, vous le savez, là, pour nous, dans le secteur aérien, le premier levier, ce sont les carburants durables. Et là, effectivement, ça ne va pas suffisamment vite, c'est-à-dire dans l'établissement d'une filière française et européenne. Aujourd'hui, l'approvisionnement n'est pas à la hauteur des besoins. Et le prix non plus, et vous le savez, est 4 à 8 fois plus élevé que le fuel, le combustible fossile que nous utilisons actuellement.
Ce qui veut dire que sur les objectifs, on n'y arrivera pas.
Alors, il ne faut pas dire on n'y arrivera pas. On a des quotas d'incorporation croissants. Ouais. En 2025, c'est 2% de carburant durable, il n'y aura pas de problème. 6% en 2030, on devrait pouvoir y arriver. En revanche, on a un saut, c'est 20% en 2035. Et donc, c'est pour ça qu'on fait pression sur l'État français, mais aussi sur les grands énergéticiens, parce que ce sont eux qui doivent évidemment être au sourcing, en quelque sorte,
Il
n'y a pas assez de carburant disponible, ce qui fait que vous savez que certains groupes vont s'approvisionner aux États-Unis, où en revanche, il y a une politique extrêmement dynamique d'incitation fiscale pour créer une véritable filière de carburant durable.
Merci beaucoup, Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bon courage devant la Commission européenne lorsque vous allez
On n'en manque pas.
Vous allez devoir défendre votre cas.